Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur le tout premier podcast de Finaland, votre site d'actualité sur Square Enix et Final Fantasy. À travers ce nouveau rendez-vous, nous reviendrons sur les dernières actualités de votre saga préférée, dans la bonne humeur qui nous caractérise évidemment. Et pour ce premier podcast, nous vous proposons une émission spéciale dans laquelle nous allons revenir sur toutes les annonces de Square Enix durant l'E3 qui s'est terminé il y a quelques jours, qui a ému la planète vidéoludique. Pour parler de cette E3, nous avons autour de la table quelques membres de la team de Finaland. On commence avec notre ami Butz, ça va Butz?
Salut Fanatix, ça va et toi?
Toujours, toujours. On a également Noctis.
Bonsoir à tous. Bonjour.
Ça va Noctis, pas trop déçu de la source FF15?
Non, on a eu un Final Fantasy 7 et Final Fantasy 15 se montrera à la Gamescom, c'est pas grave.
On espère. Nous avons évidemment l'inévitable gros chocobo officiel, Oshibi.
Quoi?
Ça va, toujours en forme?
Toujours, toujours, j'ai bien mangé, j'ai plus faim.
Et pour finir, notre mélomane maison, Darky.
Bonsoir à toutes et à tous.
Ça va Darky?
Fort bien, et toi?
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de musique?
Mais oui, je vais vous parler de la musique que nous avons entendue en introduction de ce podcast. Pour vous, fin mélomane, vous avez reconnu qu'il s'agissait bien évidemment de remix de Opening Bombing Mission de l'OST de Final Fantasy VII. Ici, il s'agissait donc d'un remix d'OC Remix, qui est un site très très connu de remix de musique de jeux vidéo. Et il appartient à un album également très très réputé qui s'appelle Final Fantasy VII Voices of the Lightstream. Et la piste, la track que nous venons d'écouter s'appelle Every Story Begins with a Name et elle fut composée à l'époque par Big Giant Circles.
Merci beaucoup Darky. On va pouvoir commencer ce podcast maintenant avec tous nos chroniqueurs. Mais qu'est-ce que j'entends? Une nouvelle musique qui vient d'apparaître en pleine émission Darky?
Oui, une musique sauvage est apparue. Alors, il s'agit d'une musique remixée de Chrono Trigger, l'extraordinaire musique Corridors of Time, et on la doit à un remake qui n'a malheureusement jamais eu lieu, qui s'appelait Chrono Trigger Resurrection, et donc ils avaient fait des remixes de moult musiques, et cette musique a donc été remixée pour l'occasion. C'est une très très belle musique, je vous encourage à l'écouter entièrement.
Ah, moi aussi j'adore ce son, donc je vous encourage aussi à l'écouter. On va commencer donc par parler de la conférence de Square Enix hein, qui avait lieu dans le E3, où ils ont annoncé énormément de jeux. Ils avaient un line-up très très fourni, aussi bien occidental que japonais, et donc ça a commencé directement avec le gros jeu de l'E3, on peut dire Just Cause 3. Buzz, tu peux nous en parler un petit peu?
Et bien sûr, c'est à moi d'en parler. Donc Just Cause, c'est simple, ça m'a fait penser un peu à ces parties de GTA où vous arrêtez de faire la quête principale ou la quête secondaire, vous prenez votre lance-roquette et vous tirez sur tout ce qui bouge, même la grand-mère qui allait chercher son lait pour le gâteau de ses petits-enfants. Et c'est à ça que ça m'a fait penser, des explosions partout. Alors en soi, ça peut être sympa comme jeu, hein, franchement, après une journée de boulot, se détendre un peu à faire n'importe quoi. Ceci dit, est-ce que ça va m'inciter à cracher 70€? Peut-être pas quand même, ça serait plutôt d'occasion. En tout cas, il faudrait qu'il montre d'autres arguments avant sa sortie.
Je sais pas où t'achètes tes jeux à 70€, mais bon.
Pardon?
Chez Microbip. On fait pas de pub, bien sûr.
Non, mais...
Ok, bah donc c'est le gros blockbuster américain, quoi, on peut le dire.
Voilà, c'est un peu ça.
Attends, il faut quand même voir que chaque objet du décor explosait quand même.
Oui, mais alors il faut voir comment ça explose. Si je recommence ma partie et que j'explose le pont, est-ce qu'il va s'écrouler de la même manière? Est-ce que les démolitions sont scriptées ou est-ce qu'il y a vraiment un véritable moteur physique derrière?
Ce sera à voir. En tout cas, ouais. Tout explosait. C'était impressionnant.
Voilà.
Donc voilà, c'est impressionnant. C'est le mot qui décrit bien Just Cause 3.
C'est pas impressionnant, c'est explosif.
C'est explosif. Pas forcément passionnant, mais explosif.
C'est détonnant, voilà.
Si on passait à un vrai jeu, les gars, parce que bon, Just Cause 3, c'est bien marrant pour se détendre quand on a un petit kikou, mais sinon, oui. Il y a des vrais jeux Square Enix qui étaient présents. Il y avait notamment un nouveau projet Nier, très mystérieux, qu'on n'a pas beaucoup encore vu grand chose, mais est-ce que je peux en dire plus, Darky, de ce qu'on a vu?
Alors, moi, je n'ai pas fait le premier Nier, mais de ce que j'en sais et de ce que j'ai entendu, surtout. C'était surtout ces mélopées magnifiques qui restent en mémoire de tous les joueurs qui ont eu la chance de l'avoir parcouru. De ce qu'on a vu, pas grand-chose. On a vu quelques artworks, un tout petit minuscule rikiki bout de cinématique où l'on voyait une jeune femme qui semblait ressembler à Kainé, donc l'héroïne du premier opus. Mmh. Et c'est tout.
Chibi, t'as quelque chose à rajouter?
Alors moi non plus j'ai jamais fait l'un, enfin il est sous blister encore chez moi.
Oh les gars.
Moi j'ai pas.
Mais j'avais écouté la bande son en fait à part.
Merveilleuse.
Et j'ai vraiment adoré, elle est vraiment merveilleuse. Keiichi Okabe a fait un super boulot. Et le petit bout de trailer, ça annonce déjà l'ambiance. Donc je l'attends et c'était quand même un des jeux pas très enfin on pensait pas que ça allait qu'il allait apparaître quoi après les ventes.
Belle surprise, quand même.
Un peu pas misérable mais faible du premier voilà quoi, on s'attendait pas du tout à une suite.
Disons que le premier a un succès d'estime beaucoup plus qu'un succès de vente en fait, mais vraiment un succès d'estime sur les internets très réputé oui.
Après c'est vrai que on en sait pas grand-chose. Mis à part qu'il est développé par Platinum Games, ouais. Alors c'est-à-dire que ça annonce du ton au niveau du gameplay.
C'est clair. Noctis, quelque chose à ajouter sur cette surprise ?
Bah moi déjà que j'étais fortement surpris, je m'attendais pas du tout à un Nier 2. On m'avait fait la blague peut-être que Nier 2 serait annoncé à l'E3, j'y croyais pas, franchement pour moi c'était plus une Alien qu'autre chose. Mais agréablement surpris, déjà retrouver Keiichi Okabe à la musique, moi je trouvais déjà sa première bande son sur Nier, premier du nom, fabuleuse. Et puis voir que Platinum Games va faire jouer son expertise en jeu d'action, en tout cas plutôt dynamique, moi ça me plaît bien. Après pour le peu qu'on en sait, bon manifestement ça se place assez loin dans le futur du premier opus, donc à voir ce que ça donnera. Moi je suis tout oui. Je vais bien suivre l'évolution de ce jeu et c'est peut-être que ça me donnera envie de refaire le premier. Voilà.
C'est clair que ça donne envie, puis un nouveau projet sur ce jeu qui c'est vrai qui n'a pas forcément marché au niveau des ventes mais qui a beaucoup ému les joueurs, ça peut être pas mal. Pour l'instant il n'y a même pas de nom, c'est Nier New Project, pas de date ni rien du tout, juste quelques images et un petit bout de trailer, mais
oui on sait qu'il est fini à 10%.
Voilà, ça annonce déjà la couleur.
Et on sait que ce sera le Game of the Year de Sacha.
Sacha on l'embrasse du oui. Canada.
En tout cas grâce à Platinum Games on peut être certain que cela va être animé. Voilà. Très bien.
Platinum Game, on rappelle quels jeux ils ont fait un petit peu.
Voilà, Bayonetta 2, Metal Gear Rising, Revengeance,
Vanquish.
Que des jeux axés action à fond.
Oui, absolument.
Donc ça peut
et récemment Transformers, donc ils ont annoncé à l'E3 le.
Ouh là là, alors là, le jeu de l'année.
D'ailleurs, on sait que le jeu va reprendre certaines mécaniques du jeu Drakengard 3, qui était déjà lui très dynamique, bon, malgré ses quelques problèmes d'optimisation. Hein, on va pas revenir là-dessus, mais ça donne le ton, quoi, vraiment.
Ok, bah merci beaucoup pour vos réactions. On va passer au prochain jeu qui, cette fois, on revient du côté de l'Occident avec un jeu de Crystal Dynamics. C'est le nouvel épisode de Tomb Raider qui s'appelle Rise of the Tomb Raider, les aventures de Lara Croft qui revient encore pour en prendre plein la gueule finalement hein, dans un nouveau jeu, mais cette fois plus ambiance glaciale, n'est-ce pas, Butz?
Voilà, tout à fait. On change de décor, mais on reste, d'après ce qu'on a vu, on reste dans la même lignée que ce premier épisode du reboot de la saga. C'est-à-dire, serait-on tenté d'annoncer un Uncharted-like, c'est-à-dire une belle mise en scène, beau décor, mais après des événements sans doute scriptés. On va voir si cette fois-ci, on va mettre un peu plus d'énigmes que dans le premier épisode. Ouais. Dans tous les cas, on est quand même très éloigné des épisodes qui étaient originellement sur PlayStation 1. Ça n'a plus grand-chose à voir et je ne parle pas seulement en termes de graphisme. Et c'est un peu le même débat qu'avec FF7. On y reviendra plus tard. Et toi, Fanatix, j'ai entendu dire que c'était Lara Croft était ton premier amour. Peux-tu nous en dire plus ?
Non, pas forcément. Mais
ah bon, je suis pas Tifa.
Mais c'est vrai que. J'ai beaucoup aimé le premier du reboot finalement sur PS3 qui est sorti récemment. J'ai vraiment adoré ce nouveau chemin que la franchise a pris, même si c'est très Uncharted comme tu dis, ça sort un petit peu sur la mode du moment, mais
c'est très plaisant.
Ouais, là ça continue.
C'est très paradoxal parce que Uncharted s'inspirait déjà de Tomb Raider à l'époque.
C'est ça, finalement il a repris le flambeau finalement Uncharted. Et donc ouais, Lara Croft qui vit des aventures complètement incroyables et qui finalement est quasiment pas humaine parce que tout ce qu'elle prend dans la gueule et continue de survivre. on a mal pour elle pendant tout le jeu et c'est vrai que c'est très 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 prenant, plein d'action et plein de scènes extraordinaires. C'est vraiment un jeu que je recommande parce que le premier m'a plu, je pense que le deuxième va être à peu près pareil.
fera pas
ouais, la dans la même lignée, oui.
Il faudra peut-être rappeler qu'actuellement, le jeu est une exclusivité temporaire sur Xbox One pour au moins
exactement.
Une année.
Il sort le 10 novembre sur Xbox.
Peut-être plus qu'une année d'exclusivité, j'en sais pas, j'en sais trop rien.
Il y a un certain flou là-dessus. Au début, ça devait être une exclusivité définitive, et puis finalement, il s'avère quoi, il va sortir sur PS4, mais dans très longtemps.
Justement,
un truc que tu dis que t'as fait, qui m'a fait un peu peur, c'est que ce soit très très similaire au premier Tomb Raider. Et quand ils ont montré le trailer, moi, j'avais l'impression que c'était la même chose que le premier, mais justement avec de la neige. Donc à voir. J'aimerais quand même voir les nouveautés. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont proposer.
Je suis d'accord avec Koshimi. J'avais l'impression de revoir le premier, mais juste avec un décor différent. Donc j'espère que ce sera vraiment différent.
Le trailer mettait aussi en avant quelques tombes. Alors je ne sais pas si ce seront beaucoup de tombes, mais il y en avait quelques-unes. Ça avait l'air.
On espère qu'il y aura des tombeaux et des énigmes, c'est sûr.
Un peu plus proche du premier opus. Disons.
On risque d'être sur un Tomb Raider 1.5.
Peut-être, on verra bien.
Bah ça va être, c'est un peu dommage que quand.
J'espère pas.
Quand on voit ce qu'a donné le dernier trailer d'Uncharted niveau gameplay, pour moi la guerre est déjà perdue quoi. Vraiment, pour le peu qu'on en a vu.
C'est vraiment une guerre entre les deux. Mais...
Bah on les compare souvent, donc actuellement moi je suis quand je vois ce que donne Uncharted 4 et ce Rise of the Tomb Raider, mon cœur a déjà balancé quoi.
Alors après, Uncharted a peut-être plus de vécu que ce reboot de Tomb Raider par Crystal Dynamics donc.
Bah ouais, j'espère qu'ils nous feront un bon jeu.
Ils peuvent plus oser quoi. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça ressemble beaucoup au premier. J'espère qu'ils vont plus innover, qu'il y aura pas mal de tombes et d'énigmes parce que c'est aussi ce que les fans de Tomb Raider cherchent dans cette licence. Donc, on va continuer avec le prochain jeu qui est toujours dans l'univers de Tomb Raider justement. Un jeu mobile qui s'appelle Lara Croft Go. Bon, ça c'est totalement inédit aussi, ça a été annoncé durant l'E3. Tu peux nous expliquer ce que c'est un petit peu, Oshibi?
C'est comment expliquer ça? C'est assez compliqué. C'est un jeu mobile où en gros il y a une énigme inspirée du jeu de Go. Donc c'est pour ça qu'il y a le mot Go. Alors après ça reprend le concept de Hitman Go qui est sorti il y a quelques mois je crois ou un an et qui avait très très bien été recueilli par les critiques. Les gens ont beaucoup adoré le concept et donc naturellement Square Enix a décidé de le faire pour Lara Croft. De ce qu'on a vu, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la direction artistique. Enfin, de ce qu'on a montré, il y avait vraiment des choses très jolies. Après, c'est un jeu mobile, donc bon. Ce que je vais jouer, je ne sais pas.
On a bien vu le succès de Hitman Go. On peut s'attendre à un succès plus ou moins similaire, voire meilleur, sur ce jeu-là. Il faut voir, vraiment tester.
La renommée de Tomb Raider fera sans doute son office, plus que celle de Hitman, même si Hitman est évidemment très connu et très, très réputé également, mais je pense que la renommée de Tomb Raider permettra à ce petit jeu de trouver son public, je pense, sans aucun souci.
Ah non, pas douter, effectivement. Alors après cette petite aparté mobile, parce qu'il fallait bien des jeux mobiles quand même, hein, on a eu... c'est bien des fois dans le métro quand tu t'ennuies, ou sur le pot, bref... On a eu ensuite un petit trailer rapide de Dragon Quest Heroes qui était plutôt absent étonnamment de l'E3 mais qui a quand même fait une petite apparition avec un trailer rapidement pour dire qu'il était là. Étant donné que le jeu sort quand même cette année sur PS4, exclusivement sur PS4 en Europe et en Amérique, pardon, alors qu'il sort sur PS3 au Japon. Il sort donc en octobre et en petit trailer histoire de dire je suis présent, m'oubliez pas, je suis un jeu d'action complètement bourrin avec tous les persos de Dragon Quest, beat them all, c'est super et tout.
C'est un Dynasty Warriors like, très simplement. En fait.
Exactement, moi je pense que pour les fans de Dragon Quest c'est vraiment un jeu à faire, ça a l'air vraiment dynamique et puis plein de références au jeu, cette saga quand même qui est épique, donc même moi ça m'intéresse alors que je suis pas forcément fan de Dragon Quest.
Il faut dire que le design d'Akira Toriyama fait mouche à chaque fois.
Ouais. Oui, et bien là c'est très très joli, c'est très joli, le framerate semble suivre très bien,
on
c'est très
sur quelque chose en 60 fps, c'est plutôt rare sur les consoles actuellement, ça fera plaisir.
C'est très joli, c'est très dynamique.
Et ben voilà, on est d'accord. Après on enchaîne sur une plus grosse licence, plus grosse licence récente en tout cas qui a un public énorme et qui est très apprécié, c'est Kingdom Hearts, qui était évidemment présent à cette E3, et avec un petit épisode également mobile. Qui s'appelle Kingdom Hearts Unchained Chi.
Qui,
comme vous voulez.
C'est comme vous voulez, c'est bon.
Ça dépend dans quel ministère vous habitez finalement. Donc, qui est finalement une espèce de remake de Kingdom Hearts sur un navigateur au Japon et qui cette fois arrive en Occident, en tout cas en Amérique. Bulls, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qu'on a vu pendant la conférence?
Alors, ce qu'on a vu, c'est pas très intéressant à mon goût. Jeu mobile, bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, à ce qui paraît, dans l'ordre chronologique de la série, ça sera le tout premier, en fait.
Exact.
De ce que j'ai entendu dire. Alors moi j'ai un point de vue vraiment de joueur casu, parce que Kingdom Hearts j'y joue, mais bon, je suis pas non plus un grand passionné comme je pourrais l'être pour les FF. Et quand je vois cette saga qui part dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a plus d'épisodes annexes que de principaux en fait.
Oui.
C'est voilà, Chain of Memories, 358 jours sur 2, enfin bref, ça part vraiment dans tous les sens et c'est... De mon point de vue, voilà, ça nuit un peu à la saga, surtout que j'ai pas encore fait KH2, mais j'ai fait KH1 à l'histoire, j'ai pas compris grand chose, donc voilà, ça aide pas non plus. Bref, et en plus, c'est un jeu mobile, et comme vous le savez, j'adore les jeux mobiles. Franchement, c'est ma grande passion. Je ne fais que les jeux mobiles, hein. Si je le pouvais, je quitterais Finaland et je ferais jeuxmobile.com. Bref. Donc, bon, voilà.
Évidemment faux, attention.
Oh, quoique. Bref, pour moi, ça m'intéresse pas vraiment. Moi, j'attends plutôt l'épisode principal, dont on va parler juste après, mais bon, celui-ci,
c'est pas forcément emballé, quoi.
Voilà, après, c'est le seul souci de Unchained Key, c'est qu'il est très très lié à l'histoire de Kingdom Hearts 3. Donc, il a l'air très très important, et je pense qu'il faudra le faire, surtout que pour un jeu mobile, il a l'air pas mal quand même. Hein. Enfin, il a pas l'air mauvais, hein.
D'accord, mais c'est ça le problème. Pour comprendre l'histoire, il faut jouer sur toutes les plateformes.
Ouais, moi,
Kingdom Hearts, voilà. C'est un petit peu la série de j'achète une nouvelle plateforme à chaque fois que je souhaite avoir un nouveau jeu.
Voilà, il manque qu'un épisode
depuis le début,
sur
c'est un petit peu cela.
Bah attends, il est sorti
un épisode sur Atari, c'est
bon. Sur Atari 2000, c'est ça.
GBA, DS, 3DS.
C'est vrai que les fans de cash ont intérêt à avoir de l'argent parce que.
Et PS4. PS4, que tu veux tout faire, il te faut toutes les consoles depuis un certain temps. Et que la Vita, malheureusement, qui n'a pas eu son épisode pour l'instant.
Ah mais comme a dit Oshibi, c'est vrai qu'il a l'air important dans le scénario, il se passe avant la guerre des Keyblade, donc c'est un moment qui est très important dans la saga, et ça va ouvrir des portes sur la suite. Donc Tis, t'en as pensé quoi toi de ce jeu?
Ben moi j'ai trouvé plutôt enchanteur, avec son design conte de fées, moi ça me plaît bien. Pour un jeu mobile, ou navigateur, hein, vous voyez ça comme vous voulez, je trouve qu'il a quand même quelques ambitions. Ça a l'air sympa à jouer. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout le côté histoire. Nomura adore créer une histoire qui très tentaculaire où tu vas découvrir chacune des parties sur les différents jeux. Et là, pour le coup, connaître les raisons qui ont conduit à la guerre des Keyblades, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Surtout que c'est un rapport fort avec Kingdom Hearts 3, qui devrait terminer la saga Xehanort. Vraiment hâte d'en savoir plus. J'espère vraiment que ce n'est pas juste une façon de nous vendre le jeu, qu'il y aura vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir. Et ma foi, moi ça m'a plutôt intéressé.
D'accord, et puis Tetsuya Nomura a dit qu'il fallait y jouer pour comprendre tout le jeu. Donc si Tetsuya Nomura le dit, c'est qu'il faut y jouer. Puis
il allait pas dire l'inverse.
Il va pas dire l'inverse, absolument.
Non, mais s'il le dit, c'est qu'il faut y jouer, c'est tout. Voilà, il a toujours raison.
Par contre, j'aimerais juste rebondir sur un truc. Il me semble que Unchained Key, c'est pas le remake, enfin, le portage mobile de Key, mais il y a quand même, il y a quelque chose de différent, mais c'est assez vague encore, enfin, de mon côté.
Ça pourrait être
vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas très, très explicite tout ça. Il dit que c'est le même jeu avec quelques différences, mais après, je pense qu'on verra par nous-mêmes. Hein. En tout cas, ça sort sur iOS et Android, et c'est un jeu à faire apparemment. On va attaquer maintenant le gros morceau de cette conférence, qui était une demi-surprise, parce qu'on savait pas s'il serait disponible, enfin s'il serait dans cette conférence ou pas. C'est la présence de Kingdom Hearts 3, cette 3 finalement, qui est quand même un des jeux les plus attendus par les fans de Square Enix et de Kingdom Hearts, qui est un petit peu le jeu qui va conclure la saga Xehanort, et qui est un petit peu l'opus tant attendu. Donc finalement, il était là, sur la conférence Square Enix, il a montré quelques nouvelles images de gameplay très très prometteurs. Et Oshibi, t'en as pensé quoi?
Kingdom Hearts 3, alors quand j'ai vu le truc, alors j'étais tout émoustillé. Parce que la musique qu'ils ont mis dans le trailer, Rage Awakened, c'est une de mes musiques préférées, donc déjà ça pétait le ton. Et ensuite, dès qu'on a vu du gameplay, c'était beau, enfin ça explosait de partout, les couleurs, c'était dynamique, etc. Enfin, le bateau, avec le train et les espèces de de tasse de thé, oh là là, j'ai...
It's a small world.
Enfin, moi, c'était un truc de ouf. Par contre, il y avait un truc qui m'a fait un peu peur, c'est que les commandes bougeaient pas, donc à mon avis, c'était un target render.
D'accord. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a un nouveau système d'attraction flow qui reprend, en fait, les attractions de Disneyland. Donc, ça, c'est vraiment sympa. C'est une petite innovation qu'ils ont trouvée. J'aime bien. Tu penses quoi, toi, Buzz, de ce trailer, vu que toi qui es fan de l'opus principal et pas des spin-offs?
Ah, tout de suite. Non, c'est vrai que j'attends plus l'épisode principal. Et là, j'ai été servi parce que ça a montré essentiellement du gameplay à 95%. Et donc, moi, à Kingdom Hearts, j'y joue surtout pour son gameplay, plus que l'histoire, on va dire. Et donc, ça a l'air prometteur. C'est en tout cas, il y a le système d'invocation qu'on a pu apercevoir. Ça avait l'air assez dynamique. Un espace assez grand, donc oui, moi ça m'a bien plu. Comme quoi, je ne fais pas que râler.
Ah, puis là, il n'y a pas de quoi râler, c'est vraiment...
Voilà, c'est là, c'est vrai. J'ai entendu dire que... Enfin, certains râlaient, par contre, du coup, ils voulaient voir le monde de Frozen, apparemment. Mais bon, c'est vraiment histoire de chipper.
Là, on a eu le monde de réponse, qui est déjà pas mal.
Oui, c'est après, bon.
Voilà, tout à fait. C'est
je pense sérieusement que le monde de la Reine des Neiges sera annoncé plus tard, hein, vu comment il est populaire.
Oui,
d'accord. Ah oui, c'est évident, surtout au Japon. Donc, c'est vrai qu'on a eu réponse, et ils se sont exprimés, les développeurs, en disant que c'était le gameplay du personnage qui les inspirait, avec la grande chevelure.
Oui, c'est long cheveux, ça peut être un gameplay intéressant.
Il y a de quoi faire des combats pas mal avec ça.
Oui.
Donc ouais, c'est vrai que c'est une bonne annonce. Toi, Darky, t'en as pensé quoi de...
Bah écoute, moi je suis pas extraordinairement fan de Kingdom Hearts, mais j'en attendais pas grand chose, mais j'avoue que c'était plutôt intéressant à suivre. C'était très dynamique et beaucoup de... Enfin, presque que du combat. On a vu beaucoup de choses. Vous avez parlé des fameuses attraction flows qui étaient vraiment... qui donnait vraiment un côté très très dynamique, très très novateur, parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose comme cela jusqu'alors. Mm-hmm. Il y avait également ce côté transformation de Keyblade qu'on a déjà vu dans Breath of the Sleep. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on avait déjà des Keyblades qui pouvaient se transformer un petit peu quand on utilisait certains modes de personnages. Et je crois que c'était très fluide. Oui, la style de commande. Voilà, merci. Je trouvais que c'est très fluide, très rapide, très nerveux. Enfin, ça a l'air vraiment d'être vraiment très péchu, et c'est ce qu'on recherche, enfin c'est possiblement ce qu'on recherche quand on joue à un jeu comme Kingdom Hearts, un action RPG aussi dynamique et nerveux. Donc c'était vraiment très agréable à suivre. Je note également, même si je n'aime pas du tout le personnage, que Sora a changé de vêtement et que c'est assez plaisant de voir qu'il a enfin évolué, au moins cosmétiquement.
Voilà. Il a aussi changé de coupe.
Il a aussi changé de coupe, voilà.
Ah, c'est la révolution.
C'est terrible. Après, moi je n'aime pas tellement le personnage, mais en tout cas c'est à noter.
Alors oui, étant un expert capillaire, je veux vous dire qu'il a moins de volume dans les cheveux, ça c'est sûr. Et au niveau de la tenue, il arbore une tenue été-hiver 2012 plutôt fit, plutôt sportive, qui le permet notamment de mieux intégrer les donjons. Sinon toi, Noctis, t'en as pensé quoi de cette annonce de nouveau trailer de KH3?
Satisfait de ce que j'en ai vu. Maintenant, à voir si ça va tourner comme ça réellement sur console, parce que c'était un peu trop beau pour être vrai. On voit quand même certaines imperfections, notamment au niveau des shaders de lumière. Je pense que...
Ah, le rabat-joie.
Ouais, bon, il faut bien un peu râler, quoi. Mais globalement, moi j'étais plutôt satisfait. Moi, le côté dynamique m'a vraiment plu. Les nouveautés apportées, la transformation de Keyblade, l'attraction flow, tout ça, c'était... moi, je trouvais ça plutôt séduisant. Les couleurs, ça peut être partout. Moi, j'adore... le choix de l'Unreal Engine 4 était peut-être un bon choix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La mise en scène du trailer était plutôt... Enfin, pour le peu qu'on en ait vu, m'a intrigué. Voir Xehanort petit parler avec Maître Heracus quand il était gosse. C'était plutôt sympa, surtout notamment le petit jeu d'échecs, enfin une sorte de jeu d'échecs, on sait pas trop. Franchement ça m'a bien plu, surtout qu'au début je croyais qu'on allait encore se faire troll par Hashimoto. Après Final Fantasy VII porté sur PS4, bah juste Kingdom Hearts Unchained Key, bon bah non, finalement on l'a eu, et ça a fait ma joie et la joie de beaucoup d'autres, j'imagine.
Parlons-nous de la possible, probable ou probablement pas date de sortie annoncée en décembre 2016, je crois, par rapport au calendrier, je ne sais plus.
C'est
en fait,
ça a été confirmé.
En fait,
c'est une vidéo qui est sortie sur Internet avec un mec qui faisait soi-disant de filmer avec un dialogue inédit, parce que et au final, c'est avéré être un fake. Le mec a posté une vidéo justement dessus, comment il a construit, etc. Par contre, chapeau pour imiter la voix de Xehanort en anglais, faut le faire. Hein.
Attends, mais il n'y avait pas quelque chose de réel comme quoi le calendrier qu'on voyait dans le fond de la vidéo ressemblait à. Enfin, il correspondait aux dates de calendrier réel de l'année 2016, je crois.
Oui, enfin, c'est après, Nomura, il aime bien jouer avec les gens.
Oui, mais c'est vrai.
On peut pas vraiment savoir.
C'est quand même sacrément fort, ça, que le calendrier soit comme par hasard dès son 2016, quoi.
Mais est-ce vraiment hasard? C'est la question.
Ah, ça.
Ça se trouve, c'est juste une coïncidence, on ne sait pas. Hein.
Peut-être.
Ou ça se trouve, c'est un nouveau Kojima.
Voilà, il fait du Kojima un petit peu, mais c'est bien, moi j'aime bien tous ces mystères.
Maintenant que Hideo ne peut plus faire quoi que ce soit, il prend
juste un truc que je voulais rajouter au niveau du gameplay, c'est que Nomura a dit qu'il n'y aura plus la touche réaction, il n'y aura plus de réaction, donc la touche triangle, celle qu'on aimait marteler dans le Kingdom Hearts 2, bah, elle n'y est plus. Ça y est.
Non, mais finalement c'est bien, ça prouve que la série évolue même dans son gameplay. Et alors c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'on ne peut pas enlever à la série, c'est d'avoir toujours su énormément se renouveler, avoir toujours su apporter des nouveautés vraiment très enrichissantes, chaque opus vraiment. Et vraiment on voit d'ores et déjà que sur ce troisième là ce sera vraiment très très marqué, donc je pense que c'est vraiment très 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 bonne chose.
Je pense qu'ils sauront trouver d'autres idées
sans aucun doute,
à exploiter dans l'action, parce que c'est de plus en plus, c'est vrai que c'est de plus en plus nerveux, c'est de plus en plus impressionnant. Il y a toujours Donald et Goofy hein, dans l'équipe.
Oui, toujours.
Les inévitables. Et donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un jeu qu'on attend énormément. Vous l'attendez-vous? Vous aussi, vous l'attendez, le jeu?
Ah bah clairement.
Absolument.
Bien sûr.
Ah bah c'est bien.
Oui. Si, bah, je l'attends. C'est un jeu qui m'a fait un peu acheter la PS4 avec d'autres jeux, donc forcément, on l'attend.
Et puis voilà, il était là alors que FF15 n'était pas là, il a un petit peu pris le relais, donc c'est bien qu'ils aient montré un de leurs gros jeux qui va paraître et qui était présent, donc ça a rassuré les fans, je pense, et tout le monde est plutôt content. Ouais. Derrière cette surprise, ils ont annoncé un nouveau qui avait été annoncé la veille à la conférence de Sony, mais ils ont remontré le trailer, ils ont un petit peu plus parlé. C'est un nouveau Final Fantasy qui va débarquer également sur PS4 et sur PS Vita. Qui est quasiment le seul jeu.
C'est l'unique jeu PS Vita du salon, je crois.
Console délaissée de l'E3.
Terrifiant.
C'est vraiment triste. Oui. Et ce jeu s'appelle World of Final Fantasy. Voilà, c'est un jeu qui reprend.
C'est pas World of Warcraft plutôt?
Non, j'ai vérifié sur mes fiches, c'est World of Final Fantasy. Et ça reprend les codes de Final Fantasy.
T'es sûr que c'est pas FF16?
Attends, je vérifie encore mes. Non, c'est bien World of Final Fantasy.
Si c'est FF16, nous sommes mal, très sincèrement.
Je quitte ce podcast, j'en ai marre.
Si c'est FF16, nous sommes très mal.
Apparemment, à la fin, le logo explose, ça devient FF17.
C'est intéressant. Okay,
j'ai pas vu la fin du trailer.
FF17.
Ce sera Japan Expo, on m'a dit. Soyez là. D'accord. Donc, Darky, tu peux un petit peu expliquer ce que t'as vu dans ce trailer?
Alors, ce que j'ai vu plein de personnages tout mignons. Vraiment très très mignon, des petites chibis, d'un personnage qui semble être un croisement étrange entre Cloud et Roxas de Kingdom Hearts. C'était très étrange. Et une demoiselle qui était un croisement de Kairi et de Sarah. Bon, bref, c'était tout chibi, tout mignon avec des gros yeux. Donc vraiment c'était très mignon. Donc vraiment sur le plan graphique, c'est très joli. On n'a pas vu grand chose non plus. Ce semblait être un bel hommage à toute la série. Avec notamment des monstres que l'on connaît très bien, les Behemoths, Alexander et tout cela, avec également des possibilités de capturer des monstres et de les faire combattre, une sorte de Pokémon qu'on a déjà vu mille et une fois dans la série, déjà, qui plus est. FF13 2, c'est toi que je vise. Mais non, ça avait l'air très, très mignon. Après, je ne sais pas ce que l'on peut en attendre, mais au moins c'était très joli et c'était rafraîchissant, je dirais.
Tiens, d'ailleurs, Oshibi, toi qui aimes bien Pokémon, t'en as pensé quoi?
Alors, de ce qu'on a vu avec le trailer, pas grand chose. C'est très très mignon, très très chibi. Ça a l'air d'être un mix d'hommages aux anciens FF. Donc, après, il y a eu le producteur Hiroki Shiba, alors je crois que c'est le producteur ou le directeur, je ne sais plus, qui disait que les personnages des anciens FF ne feront pas que de la figuration, il y aura vraiment une histoire dédiée pour eux. Donc à voir. Après, personnellement, si je le prends, ce serait sur PS Vita et pas sur PS4.
Ouais, le premier jeu PS Vita annoncé quand même.
Et le seul d'ailleurs de l'E3, je crois. Ah bah, à part les jeux indés et les petits studios tiers, mais c'est vraiment...
Nous avons eu quelques informations comme quoi ce serait effectivement notre système chéri de l'ATB qui serait de retour. Oui, revu effectivement, mais ce sera le système d'ATB. Donc des monstres à capturer, nous l'avons dit, et également la possibilité de jouer à 6 joueurs qui se battraient ensemble. Non, pas du tout. Si, c'est cela. C'est-à-dire les deux personnages que l'on contrôle, plus quatre monstres qu'on aurait capturés. Voilà. Voilà,
chaque personnage a deux monstres, en fait.
Voilà, c'est ça.
On peut noter aussi la présence de Masashi Amozu à la musique, qui avait signé Final Fantasy XIII-XIII-II notamment, une partie de Final Fantasy X. Hâte de voir son travail. J'avais beaucoup aimé justement les jeux sur lesquels il avait travaillé.
On peut entendre d'ailleurs une composition dans le trailer de monsieur Amozu qui fait rendre très
jolie
musique.
Qui était vraiment très jolie.
Voilà, on est plutôt content de ce jeu ou pas du tout? Mitigé un peu.
Pourquoi pas?
Non, bah mitigé, pourquoi pas.
Et puis voilà, ça rafraîchit quoi. On n'a pas l'habitude de voir ce type de jeu là.
C'est vrai que c'est.
Il faudra voir le modèle économique du jeu.
C'est tout mignon.
Il faudra voir le modèle économique.
Tu penses que ce sera free to play?
Non, pas forcément. Il faudra voir combien il va coûter et s'il y a effectivement des micro-paiements comme on en voit de plus en plus.
Ah, moi je vois bien les DLC sur les personnages.
Bien sûr, tu vas venir Cloud et Squall en DLC.
Bah, Cloud a déjà été annoncé.
Oh, enfin, fabuleux.
Alors, Cloud il sera Luffy, je pense, mais je pense qu'il y aura des DLC avec d'autres personnages, quoi.
Fabuleux.
Pour plus de quêtes. Mais ça peut être pas mal après. C'est un bel hommage.
C'est cela, c'est un hommage mignon à la série.
Donc, on passe, après, on est passé du mignon au plus bourrin, vu que le prochain c'était Hitman, qui a rien à voir avec World of Final Fantasy.
Faut travailler nos transitions quand même.
c'est Square Enix qui a fait la conférence, c'est pas moi. Moi, j'ai pris le même plan qu'eux, hein, c'est n'importe quoi.
C'est un scandale.
Là, on part du kawaii au sanglant, donc Hitman, l'agent 47 que vous connaissez tous, bien sûr, culte dans les jeux vidéo et au cinéma.
Non, il revient au cinéma quand même.
Ah, quand même, un petit peu, je reviens.
Ah, beaucoup moins au cinéma.
Mais là, en tout cas, il revient sur console de salon, sur nouvelle génération, avec un tout nouveau jeu, une sorte de reboot, puisqu'il s'appelle juste Hitman, le jeu, tout simplement. Et qui donc reprend les codes habituels de Hitman, l'infiltration, les assassinats impressionnants, l'agent 47 et son charisme, etc.
Le fait de changer de tenue à la volée, toujours.
Voilà.
Très important dans les Hitman.
Exactement, pouvoir se déguiser en n'importe quoi pour finir sa mission finalement. Donc il y a eu pas mal de gameplay, donc c'est pas mal. Bon, c'est un jeu d'action. Après, si ça vous plaît, ça peut le faire. Donc,
après, les fans de Hitman ont été très très déçus du dernier.
Absolution,
absolument. Ils ont été assez déçus parce que il y avait des changements de gameplay qui ne leur plaisaient pas. Enfin, je ne connais pas la série, mais je sais qu'effectivement les fans n'ont pas été très reçus avec un accueil très très chaleureux.
Mais ils promettent un retour aux sources.
Voilà, tout à fait. Semblerait-il.
Ça peut expliquer aussi le titre du jeu. C'est pas un Hitman 5. Il n'y a pas de sous-titre. On dirait un reboot en fait.
C'est une sorte de reboot exactement. Donc, ça sort sur PS4, Xbox One et PC le 8 décembre. Il y a une bêta exclusive qui va apparaître sur PS4 exclusivement bientôt. Donc vous pourrez faire une petite idée du jeu. Et d'ailleurs, petite dédicace, vu qu'on est français, on pourra jouer dans Paris, donc ça c'est sympa. Voilà. Le prochain jeu, on revient cette fois japonais, c'est vrai que c'est n'importe quoi cette.
Non mais
cette organisation.
Juste pour Hitman, alors les fans ils étaient très déçus parce qu'ils attendaient une espèce de Blood Money Lake. J'ai pas fait Hitman donc je sais pas à quoi ça ressemble. Et également le fait que le jeu sortira uniquement dématérialisé dans un premier temps, complètement. En fait, c'est une version complète dématérialisée qui sera où ils vont ajouter du contenu au fur et à mesure, et une version Game of the Year sortira l'année prochaine.
D'accord.
Une façon assez bizarre très étrange je trouve.
Ah ouais, merci pour l'info aussi. Donc sans transition, on passe à Star Ocean 5.
Voilà.
Cette fois univers spatial, univers RPG japonais, donc très très différent de ce qu'on a vu jusque là. Noctis, tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'on a vu à l'E3?
Bah, retour à un RPG traditionnel. On a commencé avec plus ou moins un récapitulatif, savoir où se place l'épisode par rapport à la série, à la saga. Puis ils ont enchaîné tout de suite sur du gameplay. Rien de transcendant, c'est juste plus joli. J'étais plus ou moins mitigé à la sortie du dernier, donc Last Hope.
The Last Dub,
mais pour le coup là, pour le peu que j'en ai vu, le héros héros de type shonen hein, au niveau du design m'intéresse bien. Le système de combat, toujours le même, mais revu pour avoir plus de personnages et encore rehausser le dynamisme du jeu, ça a l'air plutôt sympa. Par contre, mauvaise nouvelle, jeu cross-platform, il sort sur PS3 et PS4, du coup au niveau de l'ambition, bah, on se retrouve sur un jeu à être 2A, vite fait. Bon, ça veut pas dire que le jeu est moche, ça veut pas dire que le jeu n'aura pas quelques ambitions, mais bon. Ah là, c'est un peu ma déception, parce que bon, bah, j'aimais beaucoup la Sega Star Ocean, et là, ben... Bah, j'espère que celui-là arrivera à redresser la barre par rapport au dernier. Pour le moment, alors, je suis plutôt convaincu. Voilà.
Il est cross-platform uniquement au Japon, je crois.
Oui, nous on va se taper que la version PS4.
Hein. On a que la PS4.
Il faut savoir effectivement que Square Enix compte... Enfin, Enix, plutôt en l'occurrence. Enfin, Tri-Ace, surtout. plutôt Tri-Ace que Enix, excusez-moi. Compte véritablement sur celui-ci effectivement pour redorer le blason parce qu'ils ont désavoué un petit peu tristement quand même ils ont désavoué le quatrième opus en disant que c'était une erreur de parcours et qu'ils voulaient absolument revenir à l'ambiance du troisième avec ce jeu.
Ah, finalement c'est même reconnaître aussi qu'ils ont fait des erreurs donc,
après c'est leur vision, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui ont apprécié le quatrième, mais en tout cas eux ils ont cette volonté de passer un petit peu tabula rasa, disons.
Ouais, exactement.
Et rappelons simplement que le jeu s'appelle quand même Integrity and Faithlessness, qui est quand même le titre le plus imprononçable de tous les temps.
Ouais. Merci de l'avoir prononcé à ma place.
Est-ce que tu penses que ça bat Theaterism?
Ah, peut-être pas, effectivement.
Ah,
c'est pas faux. Theaterism est un mot valise assez rigolo, alors que Integrity and Faithlessness.
Ah, ils ont mieux scoré les jeux un petit peu. Les titres.
Dissidia Duodécime, par exemple.
Ou le sous-titre de Dragon Quest Heroes.
Le crépuscule de l'arbre du monde.
Effectivement.
C'est vrai que c'est bon, ça aussi.
Bah, sinon, petite déception quand même. Hein. Ils auraient pu travailler sur un nouveau Valkyrie Profile.
Ah, j'aurais tellement voulu, effectivement. Valkyrie Profile 3 à Rist, mais ce ne sera pas pour tout de suite, tristement. Ouais. Un jour peut-être.
Ah, on peut continuer à rêver, tout est possible.
J'y crois.
On a quand même eu l'annonce d'un Final Fantasy 7 remake, quoi.
C'est vrai.
Pop, on en parle plus, on en parle pas. Il spoil
la suite.
On parlera plus tard des vraies annonces, attention. Donc après, on revient à un petit jeu américain, vu que la première basso est très très bien faite.
C'est terrible.
Faut appeler là, Hashimoto, là. Ouais, là, c'est du lourd, mais bon, c'est vrai que ça varie, c'est bien. Et là, pour moi, c'est le gros coup de cœur. Moi, c'est le jeu que j'attendais dans cette conférence. C'est Deus Ex Mankind Divided.
Yeah.
Voilà, c'est le nouveau jeu d'Eidos Montréal, pardon, après Human Revolution. Sacha.
Voilà, on fait une grosse bise à Sacha.
JGB, Duga, tout ça, toute la famille. On fait des bisous. Donc toi, Darky, je sais que t'as adoré Human Revolution.
J'ai beaucoup aimé Human Revolution, absolument.
Bah, t'attends celui-ci, évidemment. Tu peux nous en dire plus?
J'attends beaucoup celui-ci. Alors. Premièrement, il le ressemble beaucoup, déjà. Alors, il est beaucoup plus beau. Enfin, beaucoup plus beau. Il est quand même... On sent qu'il y a une vraie amélioration graphique d'ores et déjà. Le HUD n'a pas tellement changé, mais c'est surtout en termes d'ambition, je dirais, d'ambiance, parce que Human Revolution avait, et pour lui et contre lui, qu'il était un petit peu trop orange, je trouve, dans les ambiances. Même si c'était un choix artistique qui se défendait tout à fait. Mais ici, je trouve qu'on voit des ambiances relativement différentes, relativement plus variées. Donc déjà, c'est une très belle évolution. Après, c'est globalement la même chose avec plus de pouvoir, plus d'Adam Jensen, très charisme. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'était vraiment très axé combat. Un petit peu d'infiltration, mais on sait d'ores et déjà, ils ont annoncé que le gameplay se voudrait plus varié, qu'on reviendra aux premières amours de la série, c'est-à-dire avant tout infiltration, beaucoup de dialogue et un peu moins de combat, même si bon, on avait beaucoup de combats jusqu'alors. Mais en tout cas, ce sera, d'après leur dire, beaucoup plus varié et cela donne très envie, en tout cas, de le découvrir.
Ah ouais, ça donne carrément envie. Ton Otis, on a pensé quoi de ce trailer?
Eh ben moi, je vous cache pas que j'avais la gueule qui pendait carrément. Deus Ex Human Revolution, ça avait été une claque à l'époque. Il faut savoir que je suis quand même un grand fan de la saga, même si le deuxième m'avait un peu déçu. Et là, revenir sur Adam Jensen, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir, avec encore une fois mise en scène qui déchire, la musique, mon Dieu, sublime.
Ah oui, absolument.
Et puis bon, bah voilà. On va de nouveau jouer un héros transhumaniste, et là, c'est ça me plaît beaucoup. En plus, le plot en lui-même est super intéressant. La tension entre les non-augmentés et les augmentés, qui a manifestement atteint son paroxysme dans ce jeu-là. Il suffit de voir le titre du jeu, Human Divide, Humanity Divide, plutôt.
Mankind Divided.
Mankind Divided, pardon.
C'est l'idée.
C'est l'idée. Bref, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte de retrouver Adam. Juste, j'espère qu'ils ne vont pas sous-traiter les boss. Parce que c'était la grosse, enfin le gros point noir du Deus Ex Human Revolution, où les boss étaient vraiment
très simples.
Ils ont annoncé qu'ils souhaitaient justement corriger cela parce qu'ils en avaient bien conscience et les retours des joueurs allaient en ce sens. Donc ils ont effectivement déclaré qu'ils souhaitaient faire de vrais combats de boss et qu'ils pourraient être battus sans verser une goutte de sang.
Ah, j'espère bien.
Je tiens juste à noter une petite chose pour ceux qui ont surtout apprécié le premier opus, c'est que ce jeu fera une liaison, semble-t-il, vraiment claire et définitive entre Human Revolution, donc le passé, et le premier Deus Ex, le futur. En termes scénaristiques, avec notamment la présence de Bob Page, qui est quand même l'un des personnages les plus importants de l'univers de Deus Ex. Donc ce sera vraiment très intéressant, je pense, à suivre en termes aussi scénaristiques et narratifs.
Ben voilà, qui est très intéressant. Donc là, c'est vrai que Adam Jensen, il fait l'unanimité, on dirait, tout le monde l'adore. le charisme du gars, quoi.
Avec sa voix anglaise est extraordinaire.
Ah, sa voix tellement suave.
Sa voix anglaise est extraordinaire.
Ah, calmez-vous, les gars, quand même, ça va passer pour une émission bizarre après. Donc, ouais, et puis en plus, il y a des nouvelles améliorations
qui sont
extraordinaires. L'espèce d'armure en métal, là, qui...
L'armure est alerte extraordinaire. Il a aussi la possibilité maintenant de rusher, semble-t-il, un petit peu comme dans Mass Effect, les apprentis qui pouvaient rusher vers leurs ennemis. Enfin, il y a, semble-t-il, beaucoup de nouveautés. Le gameplay sont beaucoup plus variés, donc ça a l'air très intéressant.
Voilà, donc là, on avait eu un premier trailer de gameplay et on a eu après une démonstration de 25 minutes de gameplay. Vous pouvez voir sur Finaland la vidéo dans le compte-rendu de l'E3. Il y avait eu un trailer de cinématique quelques semaines avant, qui avait été dévoilé suite à un teaser magnifique. Enfin, c'était vraiment très très beau déjà, et là c'est vrai que le jeu est beau, le jeu est toujours intéressant et toujours dans la même lignée que le précédent. Donc moi j'achète et puis c'est tout.
Alors le trailer est un petit peu très tourné pam pam boum boum kaboum, mais
c'est vrai.
Voilà, c'est aussi pour présenter les nouveaux pouvoirs, etc.
Je te vas avec Just Cause, hein.
C'est vrai. Alors, Just Cause est quand même beaucoup plus kaboum, je te rassure. Et effectivement, rappelons que les musiques, enfin, en tout cas, les musiques sont composées par, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas,
un grand monsieur.
Il faudrait que je retrouve son nom.
On le salue.
Salut.
Si vous écoutez. Sur son continent.
Qui a déjà fait de magnifiques musiques pour le premier opus, vraiment très très belles.
C'est pas vraiment des musiques, c'est plus de l'ambiance, hein, finalement.
C'est vraiment de l'ambiance, mais il y a quand même des musiques avec des chœurs, notamment. Ah ouais, c'est très fort.
Le compositeur s'appelle Michael McCann.
Michael McCann, absolument. Merci beaucoup.
Ah, extraordinaire.
Donc il y a vraiment le thème principal du, enfin le thème principal qu'on avait entendu dans le premier trailer en CGI est effectivement présent sur SoundCloud, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, il est absolument divin, vraiment, je trouve.
Ça, c'est de la bonne publicité, disons. Donc on va continuer avec cette conférence pleine de rebondissements, finalement, et là le prochain jeu, c'est une surprise extraordinaire, parce que c'est un jeu qu'on... c'est même pas un jeu, finalement, c'est un projet qui est annoncé.
C'est un PowerPoint.
C'est, ouais, c'est ça.
Projet PowerPoint, absolument.
C'était une fiche Excel avec plusieurs images collées dessus. Finalement, ça fait quelques semaines que le président Square Enix nous promet un nouveau RPG, console de salon, pas de remake, pas de suite et tout, un truc qui va tout démonter. Et là, il arrive avec lui-même d'ailleurs, propre personne, avec le projet Setsuna, voilà, et qui finalement pas grand-chose Darky qui a été montré, mais voilà, c'est
rien du tout. Enfin, rien du tout aussi. Nous avons vu effectivement, comme le disait Buzz, un petit peu en se moquant gentiment, et nous avons vu quelques images défiler. Alors, qui étaient magnifiques les images, avec notamment, avec notamment l'image d'un village qui ressemblerait au village d'Astérix. Ce n'est pas une plaisanterie. Non, c'était très très joli. Les images étaient magnifiques, mais c'est vrai que ça faisait un peu projet PowerPoint pour l'instant. Donc, nous n'en savons pas plus, si ce n'est qu'il semblerait sortir pour 2016.
Exactement. C'est un tout nouveau RPG donc sur console de salon. C'est un nouveau studio qui le développe, ça s'appelle Tokyo Factory RPG. C'est un studio qui a été créé spécialement pour faire des RPG japonais. Donc c'est ce que tout le monde veut finalement. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, on attend d'en savoir plus. Ça sort déjà l'année prochaine. Hein. C'est rapide et c'est une bonne nouvelle.
C'était vraiment les quelques images que nous avons vues. Nous en avons vu deux ou trois. 4. C'était vraiment très joli et bon, pour l'instant, on attend d'en savoir plus.
Voilà. Je voudrais signaler, hélas, que donc ce Project Setsuna, c'était la dernière chose présentée pendant la conférence. Oui. Conférence qui était un peu plan-plan quand même. Enfin, en tout cas, les dialogues entre les vidéos.
Un peu long.
Et ce Project Setsuna, bon, qui doit susciter l'envie, bon, mais ça aussi, c'est un. Du moins de mon point de vue, c'est un peu tombé à l'eau. Le pauvre président ne s'est même pas fait applaudir à la suite de cette annonce. Et c'était assez triste de voir ça, parce qu'effectivement, si c'est une nouvelle licence, bon, il y a de quoi être heureux. Et là, bon, mais en plus, c'est vrai que trois pauvres images. Je veux dire, s'ils sont déjà en train de développer FF16, ils peuvent aussi montrer des diapos de FF16.
C'est vrai.
Donc,
je dirais que Shai Shodé et que ce qui est arrivé avec Versus 13, il aura peut-être trotté dans la tête, si tu veux. Ouais.
D'accord. Mais en tout cas, c'était un peu emblématique de cette conférence, qui avait du contenu, mais présenté de manière très.
Soporifique, un petit peu.
Voilà.
Le 3.1.0, quoi.
Oui.
Voilà. Quelque part.
Il ouais, leur manque ça. Quelque chose.
Et après, c'était leur.
Comme Aisha Tyler. De
comme Aisha Tyler, oui.
Afida Turner pour toi, parti. Mais oui, Aisha Tyler, c'est vraiment une superbe animatrice de chez Ubisoft.
Oui, elle est très.
Si
très,
vous matez
très
les conférences Ubisoft, vous savez de quoi je parle.
Ah, c'est ça qui met un peu l'ambiance, quoi.
Disons que ça manquait un petit peu de liant et surtout de. Voilà, de réussir à susciter toujours l'envie pour chaque nouvelle vidéo montrée. C'est, comme c'était leur première conférence, je pense qu'ils se rodaient un petit peu. Donc c'est je pense, pas catastrophique, simplement.
Pour revenir rapidement sur le nouveau studio Tokyo.
Factory
RPG là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais entre 2013 et 2014, Square Enix avait lancé une grande campagne de recrutement où ils parlaient de justement créer un nouveau studio pour créer un nouveau RPG triple A. Je me demande si justement.
Exact.
Il y a de grandes chances que celui-là. Maintenant, à voir quel type de RPG il compte.
Un très beau parallèle en tout cas, c'est vrai.
Mais attends, mais le pire, c'est que les images, là, enfin le trailer, enfin les images PowerPoint qu'on a vues sont disponibles sur Twitter depuis le mois de mai.
Ah bon?
Et personne n'a vu.
Ah tiens,
personne n'a vu.
C'est disponible depuis le mois de mai. Donc en gros, ils étaient dans l'anonymat le plus total. Et dès que Square Enix a annoncé, d'un coup, leur nombre de followers, ça a monté. C'est monté.
Ouais. On avait sous les yeux, quoi.
Ah, il suffit d'une annonce.
On avait fait ça sous les yeux, quoi.
C'est quand même dingue de se dire qu'il y avait ça sur Twitter. Finalement, ils ne nous ont rien montré de vraiment nouveau. Si c'était déjà là, c'est juste nous qui l'avons pas vu. Moi, j'aurais préféré quelque chose de plus tentant, plus séduisant.
Ah, nous aurions tous préféré Final Fantasy XVI, mais ce serait pour une prochaine fois, j'imagine.
Ah, mais peut-être que c'est Final Fantasy XVI.
Ah, mais si.
Oh, non, je ne pense pas, sinon il s'appellerait pas comme ça, proche de Setsuna. Je pense que.
Ah, c'est pas. Mais si le jeu sort déjà en 2016, il va déjà quand même plus à montrer que ça, quoi. Je veux dire, oui. Le jeu est déjà développé depuis un moment.
Si attends, en 2016, prochaine. Ça peut être fin 2016, hein.
Ça peut être fin 2016. Oui.
Donc.
C'est peu probable que ce soit
fait. Un jeu, ça c'est pas.
Non, Final Fantasy XVI, généralement, c'est les studios premières qui font les Final Fantasy.
Oui.
Ouais, à mon avis, le jeu, alors dans les trucs de recrutement là, ils avaient mis Unity. Donc à mon avis, le jeu tourne peut-être sur le moteur Unity.
Oui, c'est possible.
Donc ça veut dire que c'est pas un jeu de grande envergure, je dirais. Enfin, c'est pas un triple A, quoi. C'est pas un blockbuster.
D'accord.
Affaire à suivre, donc.
Exactement.
On va terminer avec un autre Final Fantasy qui est moins nouveau, mais qui cartonne pas mal, finalement. C'est Final Fantasy XIV avec son extension Evensward, qui vient de sortir, finalement, il y a très peu de temps. Et qui a fait sa petite apparition à l'E3, histoire de dire que FF14 ça marche très très bien et ça plaît à Square Enix et là ils nous offrent une extension complètement incroyable. Toi Oshibi, t'as pu déjà un petit peu roder le jeu, tu peux nous en parler?
Ouais, donc l'accès anticipé a commencé le 19 et le jeu sort officiellement le 23. Donc là je suis avec mon mage blanc niveau 56 dans la région de Dravania. Qui est la grande nouveauté, c'est de pouvoir voler partout à peu près dans la carte. Par contre, il y a des choses requises pour voler et ça c'est assez chiant, je dirais. Enfin, j'aime pas trop la façon. Il y a des quêtes à faire, il faut également chercher des vents éthériens qui sont disséminés partout dans la carte. Donc ça prend du temps. Ensuite, au niveau de l'histoire, je vais pas spoiler. Mais je suis un peu déçu. Enfin, il y a une partie qui m'a beaucoup déçu.
Ah.
Et là, ça reprend de plus belle, en fait. Donc, à voir. À voir, en tout cas. Et sinon, au niveau des nouvelles classes, j'ai testé l'astromancien qui est vraiment pas mal, en tout cas, au niveau des animations. J'ai vu également le Dark Knight, qui est joué par tout le monde. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est sombre,
Batman,
c'est émo.
Parce que Batman sort tout bientôt.
Parce qu'il a la classe.
Le prochain Batman sort tout bientôt.
C'est parce que c'est émo, peut-être, je sais pas. Enfin,
peut-être.
Enfin, voilà, il y en a...
Tout de suite, attaque les émo.
Ah, mais c'est la prestance du gars, attends.
Il y en a partout. Et j'ai vu le machiniste qui a l'air assez spécial dans son genre, mais bon. Il faudrait que je le teste un peu plus en profondeur. Et voilà, enfin, franchement, cette extension-là, j'ai plus de vie sociale depuis. Hein.
Est-ce que tu as refait ton personnage pour en faire un Aura ?
Non, parce que je suis pas fan du tout des Aura, et comme on le dit dans ma compagnie libre, on dirait un humain avec de l'eczéma.
D'accord.
C'est valorisant.
Très ragoûtant.
Non, plus sérieusement, je suis pas vraiment fan en tout cas du truc. J'aime bien mon micote, mon micoté, enfin je sais pas comment on le dit.
J'adore les micotes aussi.
Ouais, donc. Ouais, j'ai pas changé mon perso encore. Enfin, je pense pas le faire.
Et toi, Buds, t'y joues aussi ?
Alors j'y joue aussi, mais je suis beaucoup moins fort qu'au Chibi, et je suis même bien plus loin.
Personne n'est plus fort qu'au Chibi.
Voilà, c'est un peu le maître.
C'est un gros chocobo.
C'est
un
fat chocobo. C'est voilà. Le gros chocobo, oui.
C'est notre
ah oui, bah, le gros chocobo qui vole, c'est la meilleure chose en Chupatch.
Moi, ce que je voudrais... Oshibi a presque tout dit. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est ce que tu as dit, Fanatic, c'est que le jeu cartonne, il marche très bien. Auprès des joueurs, il a vraiment, il a beaucoup de succès. Et ça fait plaisir. Quand on sait d'où est parti Final Fantasy XIV, quand on connaît les critiques que subissent les autres Final Fantasy, notamment la saga FF13, et les appréhensions concernant FF15, bon voilà, il faut se dire que entre les deux, on a quand même un FF14 qui est apprécié. Je pense que seuls ceux qui ont joué à Final Fantasy XI, ceux-là ont plutôt un penchant pour le vieil MMORPG. Mais en tout cas, c'est rafraîchissant, et puis voilà, on peut se dire que Square Enix peut encore faire de belles choses.
Bah, il suffit d'avoir un bilan financier. Celui qui a participé en grande partie à la santé financière de Square Enix, c'était Final Fantasy XIV et les jeux mobiles, quoi.
Voilà.
Très bien.
Le jeu cartonne et c'est vraiment très très mérité. C'est ainsi que se clôt la conférence de Square Enix.
Ah, il manque quelque chose. Il manque quelque chose.
Comment ?
Voyons.
On aura oublié un jeu, mais non.
On a oublié le plus gros jeu.
Alors, qu'est-ce que vous me dites ?
All the Bravest, HD.
Non.
Regarde ma fiche, on a rien oublié hein, pour moi. C'est
pas FF12 HD, non, c'est FF7 sur iOS et Android.
C'est vrai qu'il était aussi, c'est vrai.
Voilà.
En jeu du monde, il revient sur iOS finalement.
Mais oui,
vous pouvez dans votre poche.
La version originale, celle que l'on aime tous.
Voilà, comme j'adore les jeux mobiles, ben je devais le signaler.
Hein. Ah, nous voyons un pattern hein, qui se retrouve.
Voilà, les jeux mobiles.
En plus, cet été, sur la plage, FF7, revue des aventures de Cloud sur iOS, c'est magnifique.
Magnifique, incroyable.
Voilà. Costa del Sol, IRL et sur tout
smart. C'est la grosse annonce de cette offre.
Voilà.